Jésus avec vous. Et si vous avez une Bible, j'aimerais vous inviter à la prendre et on va faire une déclaration de la foi, une chose qu'on aime déclarer ici, parce que je crois et je suis persuadé que vous croyez également que la Bible est inspirée de Dieu. Combien de vous êtes vraiment convaincus de cela? Alors, si vous n'êtes pas encore convaincu, c'est pas grave, un jour vous serez convaincu. C'est parce qu'elle est vraie, elle est bonne, elle est véritable. Mais on va dire ceci, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu, et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède, et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question qui vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Et c'est une bonne question, parce que... la vie est précieuse, vous êtes d'accord avec moi? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et ne comprennent pas vraiment c'est quoi la signification, c'est quoi le sens de la vie, pourquoi est-ce que je suis sur la terre, pourquoi est-ce que j'existe, est-ce qu'il y a une raison pour cela, est-ce que j'ai un but, est-ce que j'ai une raison d'être même? Et on va essayer de répondre à cette question. Et c'est une question importante, comme j'ai dit. Mais pourquoi est-ce que j'ai ça dans mon cœur? Il y a quelques petites raisons, en fait des grandes raisons. De un, depuis quelques semaines, je vois de plus en plus le besoin que nous avons ici même dans notre ville de prêcher la parole de Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle à notre entourage. Il y a des gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas que Jésus est le Christ. Ils ne savent pas que la vie éternelle est un don gratuit et qu'ils n'ont pas besoin de passer une vie misérable sur la terre et puis passer l'éternité à l'enfer, mais qu'ils peuvent avoir une vie comblée et ils peuvent avoir également une vie éternelle avec le Seigneur au paradis, dans la joie, marcher sur les rues d'or. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais comme je dis, c'est triste de penser que la plus grande partie de la population, ils sont même pas au courant que ce don si merveilleux existe et qu'ils n'ont que à confesser avec la bouche et accepter par la foi ce don pour recevoir cette vie nouvelle. Donc ça brûle dans mon cœur et de plus en plus j'ai vraiment le désir de ranimer dans mon cœur personnel et dans votre cœur le désir de partager la bonne nouvelle avec les gens qui nous entourent. Ça, c'est la première des choses. En plus, deuxième raison que ce message ce matin a commencé à rouler dans mon cœur, en fait, il y a plus que deux raisons. Plus j'y pense, il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon cœur, dans ma vie personnelle, dans ma famille, dans ma parenté et aussi aux nouvelles. Combien de vous, vous reconnaissez la personne sur le diapo ici? Toutes sortes de réactions, hein? J'étais en match de baseball avec mon fils à Victoriaville l'autre jour et tout d'un coup, c'était en fait, c'était jeudi soir, je pense, n'est-ce pas? C'est ça, jeudi, et tout d'un coup, il y a une mère un des coéquipiers de John qui dit: oh, as-tu entendu, Michael Jackson est mort. Donc, oui, tout le monde était. Et puis, il y avait toutes sortes de réactions. Il y a des gens qui se moquaient un peu, et puis finalement, mais c'est quand même triste. Et on voit que c'était vraiment quelque chose quand je pensais à ça, de voir la réaction des gens. On parle d'une personne quand même, c'est un être humain, n'est-ce pas? Et trop souvent, on voit des personnes qui ont des vies troublées et c'est facile de se moquer d'eux. C'est facile de dire, oh oui, mais c'est ainsi, c'est un ça. Mais moi, je pense qu'on doit faire attention parce que chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Et quand même, on parle d'une personne qui avait pas mal d'influence, que ce soit une bonne influence ou pas une bonne influence, il avait pas mal d'influence dans le monde, vous êtes d'accord? Mais il n'avait que 50 ans et il est parti. Et on pense à ça. On pense à sa vie et l'impact que cela a fait et qu'on a juste à dire le mot Michael Jackson ou juste à dire Beat It et tout le monde pense tout de suite et tout le monde sait de quoi on parle, n'est-ce pas? Mais quand même, pense à ça. Venu au monde en 1958, il n'y a pas tellement, c'est pas si loin que ça, vous êtes d'accord? Et puis il est déjà parti. Et puis la même journée, il y a une autre personne. Hein? Faire un facile. Hein, je ne sais pas, moi j'ai grandi, j'étais à l'école primaire dans les années 70, et les garçons dans ma classe portaient les t-shirts avec son image. Hein, c'est là, c'est Charlie's Angels, c'est Farrah Fawcett, elle était la femme au monde, et tout le monde pense que c'est la plus belle femme au monde, et tout cela. Mais regarde, oui, c'était une jolie femme, mais regarde bien, elle n'est plus là aujourd'hui. Déjà partie. Déjà parti. Et ça me, et tout cela, avec toutes sortes d'autres choses que même moi je vis actuellement avec ma parenté, hein. J'ai des personnes dans ma famille qui sont proches à moi, qui, à juste quelques ans, qui étaient en super de bonne forme et qui allaient très bien, qui étaient vraiment, des personnes, qui avaient, beaucoup d'énergie et beaucoup de force et aujourd'hui peuvent presque plus marcher. Donc, je vois cela, et je vois que la vie est quand même fragile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que votre vie? Et le message aujourd'hui, c'est pas un message qui est destiné à nous déprimer, c'est pas un message qui est destiné à nous décourager, mais c'est quand même un message qui est destiné à nous réveiller. Pour qu'on puisse se poser la question comme il faut, qu'est-ce que votre vie, pourquoi est-ce que je suis ici, c'est quoi vraiment la raison, et qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie compte pour Dieu? Ça, c'est vraiment le sous-titre du message, comment mener une vie qui compte pour Dieu. Votre vie sera bientôt passée, seulement ce qui est fait pour Christ va durer. Et ça, c'est une chose que j'ai entendue quand j'étais jeune, hein, et ça, je garde ça dans mon cœur depuis. Mais la Bible parle beaucoup de la fragilité de la vie et jusqu'à quel point la vie va être vite passée. Et quand on dit que la vie est fragile et que la vie va bientôt être passée, il faut quand même trouver un équilibre. Nous ne sommes pas en train de dire que la vie n'est pas importante ou qu'on ne doit pas vraiment jouir de notre vie. Au contraire, la Bible nous donne les belles promesses que nous puissions mener une vie qui est prospère à tous égards et qu'on peut avoir une longue et heureuse vie ici sur la terre. Je ne pense pas qu'on est obligé d'avoir une vieillesse de souffrance qui est pénible et qui est misérable, mais qu'on peut vieillir selon la grâce de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Et même on voit dans la parole de Dieu que les gens qui ont les fils d'argent sont considérés comme des personnes qui sont dignes d'honneur et qui sont dignes de respect. Il y a une certaine sagesse qu'on peut vraiment cultiver dans notre vie avec les années. Donc, je veux avoir un équilibre dans ce message. On veut se réveiller, on veut se rendre compte du fait que la vie passe vite. Mais on veut aussi saisir chaque moment, racheter le temps et savoir qu'on n'est pas ici pour rien. Amen? Donc, si on peut continuer dans vos notes et ici sur le PowerPoint, j'ai quand même mis quelques passages qui parlent de la fragilité de la vie et jusqu'à quel point la vie est vite passée. Jacques chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Voilà le titre de mon message. Qu'est-ce que votre vie? Et la réponse est simple. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Wow! Qu'est-ce que votre vie? Une vapeur. Mais une vapeur importante. Tout le monde dit, ma vie est une vapeur. Mais une vapeur importante. Amen. Et qui ensuite disparaît. Et je pense à ça. La vapeur peut être gaspillée ou la vapeur peut être utilisée pour le bien. Je vais le dire encore. La vapeur peut être gaspillée ou on peut capturer la vapeur. Exemple pour un train, pour un bateau, et on peut faire fonctionner un moteur, et on peut faire avancer des choses énormes. Il y a une puissance incroyable dans la vapeur, n'est-ce pas? Si on peut saisir cette puissance, si on peut capturer cette puissance, et si on peut contenir et diriger cette vapeur dans le bon sens, cette vapeur peut faire avancer les choses et peut faire beaucoup de bien à tous ceux qui nous entourent, n'est-ce pas? Donc, la question qu'on doit se poser, est-ce que la vapeur de ma vie va disparaître dans l'air ou est-ce qu'on va capturer la vapeur de ma vie pour avancer l'œuvre de Dieu et pour promouvoir l'évangile de Jésus-Christ? Ça, c'est la question qu'on a besoin de se poser. Votre vie, en fait, on voit ici, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et un autre passage, Luc chapitre 12, verset 16, Jésus qui parle et leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Voici, dit-il, ça c'est un bon problème, n'est-ce pas? J'ai trop de choses, trop de récoltes, trop d'argent, trop de biens, je ne sais pas quoi faire avec. Alors, c'est quoi sa réponse? « Voici, dit-il, ce que je ferai. » J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et régis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, j'ai déjà fait un message là-dessus, pour lui-même, versus, et qui n'est pas riche pour Dieu. Et on a fait tout un message là-dessus. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vivait pour vous-même, ou est-ce que vous êtes riche pour Dieu? Amen. C'est ça qu'on veut être, n'est-ce pas? On ne veut pas que la vapeur de notre vie soit gaspillée. On veut vraiment saisir cette puissance pour faire promouvoir l'évangile de Jésus. Un autre verset, Psaume 103, verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Voilà. Comme je dis, le message n'est pas destiné à vous déprimer. Le message est destiné à vous réveiller. Amen. Tout le monde dit, je me réveille. Alléluia. OK. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Donc, voyez-vous, il y a une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. La vieillesse même de personnes qui craignent Dieu devrait être différente qu'une vieillesse de quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va voir cela. Donc, mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. 1 Jean 2, 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait quoi? Celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Donc, notre vie sur la terre est une vapeur. Mais, nous durerons éternellement si nous faisons la volonté de Dieu. Est-ce que des gens qui veulent faire la volonté de Dieu ce matin? 1 Pierre chapitre 1, verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. On pense à Michael Jackson, on pense à Farrah Fawcett. Si j'aurais pu, j'aurais vous montré un clip vidéo que j'ai trouvé sur l'Internet, c'est un diapo de toutes sortes de vedettes. Je pourrais nommer des personnes comme Brigitte Bardot et Elvis Presley et Goldie Hawn et la liste est assez longue. Et ça montre les photos de ces personnes au moment où la jeunesse et la gloire et la beauté est évident. Et puis, le prochain clip, c'est les mêmes personnes avec un corps qui est assez usé et beaucoup moins beau, beaucoup moins attirant. Et peu importe qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez dans le naturel, toute chair toute chair est comme l'herbe, n'est-ce pas? Et sa gloire est comme la fleur des champs. Et encore, c'est pas pour nous déprimer, mais c'est juste pour assurer que nous avons les priorités à la bonne place. Notre vie est comme une vapeur et je ne veux pas que ma vapeur disparaisse dans l'air sans avoir accompli rien. Je veux que la vapeur soit utilisée pour propulser l'œuvre de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Donc, on continue. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Comment on dit de l'or? De l'argent et des pierres précieuses. Amen. Ou, il y a un autre choix, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une quoi? Une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. On parle toujours de qu'est-ce que votre vie? Votre vie est une vapeur qui va bientôt disparaître. Est-ce que vous allez faire quelque chose avec votre vie qui va compter pour Dieu? Et voilà, on a un passage qui est écrit aux chrétiens, pas aux non-croyants. Cette parole s'adresse à vous et à moi. Et on voit là-dedans que le commencement du OMC, oui, mais comment vivre pour Dieu? Comment avoir une vie qui compte pour Dieu? On commence à voir les principes qui vont nous guider. Et je voulais partager ce verset comme une transition. Parce que savez-vous quoi? Nous avons chacun un choix à faire. On peut bâtir sur la fondation de Jésus. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, remercions le Seigneur. Vous êtes sauvés de vos péchés. Vous avez une sécurité dans votre cœur. Vous savez que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris, mais aussi que par son sang, vous avez été pardonnés. Vous avez une place réservée pour vous aussi. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais, comme on a vu dans le verset précédent, chacun doit prendre une décision comment il va bâtir. On peut bâtir avec de l'or, l'argent et des pierres précieuses, ou du bois, du chaume ou du foin. L'or, l'argent et les pierres précieuses sont des choses qui peuvent passer à travers le feu. Quel feu? Le feu dont ce verset parle, c'est le feu qui va éprouver nos œuvres quand nous serons devant le tribunal de Jésus-Christ. C'est pas le grand trône blanc du jugement. Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais nous qui connaissons Jésus, nous allons tous comparaître devant son trône, devant son tribunal, et on va être récompensés pour les œuvres que nous avons faites. Amen? Et c'est là où on va voir si votre vapeur a été gaspillée ou si votre vapeur a été saisie et bien dirigée. C'est quoi l'or, l'argent, la pierre précieuse? Juste vite, vite, l'or, je crois, représente tout ce qui concerne la gloire de Dieu. Donc, est-ce que vous vivez pour la gloire de Dieu? L'argent, dans la parole de Dieu, représente la rédemption. Est-ce que vous vivez pour la rédemption de l'humanité, dans le sens que, est-ce que vous êtes en train de vivre pour amener les âmes au Seigneur Jésus? Les pierres précieuses, nous sommes les pierres vivantes dans la maison de Dieu. Les pierres précieuses représentent, à mon avis, les relations qu'on peut entretenir avec les gens. Parce que il n'y a rien de plus important sur la terre que nos relations. Toutes les autres choses qu'on peut toucher, nos maisons, nos autos, nos vêtements, notre argent, tout va brûler. Mais les relations que nous avons avec Dieu et avec les autres enfants de Dieu, ça c'est quelque chose qui est éternel. Amen? Donc c'est ça. Donc, posons la bonne question. Qu'est-ce que votre vie? Et qu'est-ce que vous faites avec votre vie? Comment est-ce que vous bâtissez votre vie? J'ai déjà cité le verset « Toute chair est comme l'herbe et sa gloire est comme le fleur des champs. » Mais ça, c'est une chose que la parole de Dieu a citée. C'est un verset de l'Ancien Testament que l'apôtre Pierre a cité en 1 Pierre, chapitre 1. Et juste avant qu'il a cité ce verset, il avait un long discours, en 1 Pierre chapitre 1, à partir de verset 13 à verset 23, un long discours. C'était quelques paragraphes. Et dans ces paragraphes, il donne les instructions qui sont très pratiques et qui sont très terre à terre. Comment vivre une vie qui va compter pour Dieu dans la lumière? Parce que n'oublions pas le verset qu'il a cité, « Car toute chair est comme l'herbe. » On va le dire ensemble, « Car toute chair est comme l'herbe. » Et à chaque fois dans la parole de Dieu, quand on voit le mot « car », c'est juste trois lettres, « car », il faut savoir pourquoi le « car » est là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut reculer et voir les versets précédents. Et c'est ça qu'on va faire. Pour terminer ce message aujourd'hui, je vais juste vous donner six choses que l'apôtre Pierre a dit qui peuvent nous aider à mener une vie qui va compter pour Dieu dans la lumière du fait que toute chair est comme l'herbe et sa gloire est comme la fleur des champs. Ça vous intéresse? Combien de vous êtes prêts à saisir votre vapeur? Capturer la vapeur de votre vie pour que ça ne soit pas gaspillé. Comment mener une vie qui compte pour Dieu? Numéro un, vivez chaque jour dans l'espérance de voir Jésus-Christ. Vivez chaque jour dans l'espérance de voir Jésus-Christ. Savez-vous c'est quoi l'espérance? C'est une vision d'un futur préféré. Quelqu'un qui est malade peut espérer être guéri. C'est-à-dire qu'il a une vision de... Si par exemple il ne marche plus, il peut avoir une vision de marcher encore. C'est l'espérance. Quelqu'un qui a un mariage qui est en conflit peut avoir une espérance de restaurer son mariage. Donc, au lieu de la chicane, il a une vision de l'harmonie dans son foyer, de la joie et de la paix et de l'amour. N'est-ce pas? Mais on a besoin de vivre chaque jour dans l'espérance de voir Jésus-Christ, de savoir qu'un jour, veut pas, on va tous voir Jésus. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui vivent pour Jésus. Amen? En fait, la Bible nous donne les instructions. On peut mener une vie d'une telle manière qu'on n'aura pas honte de son apparition. Ou on peut mener une vie où on va avoir honte quand il revient. Donc, si vous voulez mener une vie qui n'est pas gaspillée, si vous voulez que votre vapeur ne soit pas dispersée dans l'air pour rien, si vous voulez vraiment que chaque jour et chaque minute de votre vie compte pour Dieu, vivez avec cette espérance qu'un jour, je vais voir Jésus. Et en fait, en Jean, le premier épître de Jean, chapitre 3, nous dit que celui qui a cette espérance en lui-même se purifie lui-même comme il est pur. Donc, savez-vous que déjà, juste l'idée que à tous les jours, je dois être conscient que Jésus peut revenir aujourd'hui. Moi, j'ai grandi dans une église où mon pasteur parlait beaucoup du retour de Jésus. Et j'avais toujours cette conscience. Et quand j'étais éloigné de Dieu, je peux vous avouer qu'il y avait des moments où j'étais pas vraiment à l'aise. Il y avait des moments où je faisais des choses, je disais, bon, j'espère bien que le Seigneur va pas revenir là. Vous savez de quoi je parle? Vous riez parce que vous avez peut-être vécu la même chose? Oh, personne ne veut avouer, hein? Mais je l'ai fait, je sais. Mais laisse-moi vous dire, c'est triste. Qu'est-ce qui est le fun, par exemple, c'est de mener une vie où on sait qu'on est en règle avec Dieu. C'est pas sur nos propres mérites. Savez-vous quoi? Si moi, je recevrais qu'est-ce que j'ai mérité dans ma vie, ça serait l'enfer. Littéralement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas ça. C'est pas qu'est-ce qu'on a mérité qui compte, c'est qu'est-ce qu'on a hérité. Et nous sommes tous héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. J'ai reçu gratuitement l'amour et la grâce et la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, mes péchés sont effacés. Et j'ai eu un nouveau départ. Et Dieu est mon Dieu. Et Jésus est mon sauveur. Et la vie est bonne en lui. Je n'ai pas dit que la vie est facile. Mais la vie est bonne en lui, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose de pouvoir s'endormir la nuit en sachant que, en pouvant dire dans notre cœur, Maranatha, vous avez entendu le terme Maranatha? Viens, que le Seigneur vienne. OK? Dans l'Apocalypse, on voit cela. Que l'épouse dise, viens. On devrait tous avoir cette attitude. Seigneur Jésus, que ça soit aujourd'hui. Viens. Et la seule et l'unique raison qu'on ne devrait pas vouloir qu'il revienne aujourd'hui, c'est seulement parce qu'il y a encore des âmes à sauver, pas parce que nous vivons dans la débauche. Vous comprenez ce que je dis? Donc, Seigneur, viens. Tout le monde dit, viens, Seigneur Jésus. Savez-vous, on ne peut pas vraiment dire, Seigneur, viens, sans sonder ton cœur, sans sans mettre certaines choses en règle, en ordre dans notre vie. Amen. C'est pourquoi, verset 13 dit, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Deuxième chose qu'on peut faire pour mener une vie qui compte pour Dieu, conduisez-vous selon la sainteté et non pas selon la convoitise. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que la Bible dit, verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Savez-vous, sans exception, on ne peut pas pointer le doigt et dire, ben vous, vous aviez vraiment des convoitises. On était tous pécheurs. On avait tous une nature qui était contraire à la nature de Dieu. On vivait tous selon les convoitises de la chair. Amen. Et donc, mais on voit cela dans ce verset. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais vous, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Tout le monde dit, je suis dans la lumière. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez quoi? Saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Ça veut dire quoi d'être saint? C'est de mettre une robe, se raser la tête, vivre dans un monastère quelque part, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça? Je suis content, parce que ça ne m'étonne pas, et vous? Non, je pense que ça, c'est vraiment triste. Dans le Moyen-Âge, c'est ça que l'Église a fait. L'Église est allée se cacher. L'Église pensait qu'il allait être sanctifié. Et je sais, il y avait des fois des personnes sincères qui avaient besoin de se cacher pour différentes raisons. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la lumière a été mise en arrière des murs et le monde a vécu des moments difficiles et épouvantables, une âge de ténèbres, on dit, n'est-ce pas? Et l'Église est la lumière du monde. Mais l'Église est appelée à être saint. Saint veut dire quoi? Mise à part, tout simplement. Encore, si vous êtes dans l'Église depuis un certain temps, vous connaissez le meilleur exemple que j'ai de la sanctification, c'est quoi? Quelqu'un se souvient? C'est votre brosse à dents. Vous dites quoi? Oui, vous savez quoi? Votre brosse à dents est saint. Parce que votre brosse à dents est mise à part pour une seule chose, n'est-ce pas? On utilise la brosse à dents pour se brosser les dents. Alors, j'ai quelques brosses à dents qui ne sont plus sanctifiées et maintenant je les utilise pour nettoyer la chambre de bain. Mais une fois que ma brosse à dents a été utilisée pour cela, je ne veux plus me brosser les dents avec. Vous me suivez? Donc, pourquoi je dis cela? Votre vie est comme une brosse à dents entre les mains de Dieu. Et vous êtes supposé, il vous a lavé, il vous a purifié, il vous a désinfecté. En fait, plus que ça, il vous a régénéré. Vous êtes une nouvelle brosse à dents. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues toutes nouvelles. Et Dieu veut se servir de votre vie pour sa gloire. Et il veut dire, ta vie m'appartient. Il y a un seul usage. Et la seule et unique chose que tu es supposé de faire avec ta vie, c'est de me glorifier. Amen. Donc, c'est pourquoi, conduisez-vous selon la sainteté et non pas selon les convoitises. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous aide à vivre dans la sainteté. Vous dites, mais moi, j'ai des convoitises, j'ai des désirs, j'ai les impulsions de la chair. C'est pas grave, parce que si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Et si vous tombez, la bonne nouvelle, c'est que si vous péchez et vous confessez votre péché, il est fidèle et juste pour vous pardonner et puis aussi pour vous justifier. Amen. Numéro 3, vivez comme un pèlerin dans la crainte de Dieu. Comme un pèlerin. Comment ça, un pèlerin? Parce que vous savez que selon verset 17, « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, » sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Il faut qu'on sache que nous sommes encore ici pour un temps limité. Combien de temps est-ce qu'il vous reste sur la terre? C'est différent pour chacun de nous. Il y en a ici qui ont à peine commencé. Il y en a d'autres qui ont déjà fait un bon bout de chemin, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je sais, c'est que le temps qui nous reste est précieux. Et c'est une vapeur, oui, mais même si vous avez perdu beaucoup de vapeur, c'est pas trop tard de capturer la vapeur qui reste, et Dieu est capable de faire en sorte que les dernières années de votre vie soient les meilleures. Et que vous pourrez accomplir plus dans les quelques années qui vous restent que qu'est-ce que vous avez gaspillé toutes les années mises ensemble. Amen. Mais quand même, nous sommes les pèlerins. Notre cité à nous est où? C'est pas ici, c'est pas Drummondville. Je ne suis pas Drummondvillois pour éternité. J'aime Drummondville. Je suis content d'être citoyen de Drummondville. Je suis content d'être résident ici au Canada. J'aime ce pays. J'aime la province du Québec. J'aime cette ville. Mais je pense qu'on est tous d'accord que la ville céleste est pas mal meilleure. Ça, c'est ma cité à moi. Ça, c'est votre cité à vous. Et nous sommes les pèlerins. Et on a besoin de mener une vie comme un pèlerin, mais dans la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est la révérence pour Dieu. C'est de savoir que Dieu est Dieu. Et combien de personnes dans notre société se moquent de Dieu aujourd'hui? Sans le savoir, ils se moquent de Dieu dans leur façon de penser, dans leur façon de faire, dans le fait qu'ils vont... Ils vont juste mettre de côté tous les principes de la parole de Dieu. Tout ce qui est noir et blanc dans la parole de Dieu est gris dans notre société aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. En fait, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Haïr le péché. Voulez-vous craindre Dieu? Commencez à haïr le péché, pas le pécheur. Parce que nous, on serait tous faits si c'était le cas, hein? On aime le pécheur, mais on haït le péché parce que le péché détruit, n'est-ce pas? Numéro 4, quatrième chose qu'on peut faire pour mener une vie qui compte pour Dieu, appréciez le prix que Christ a payé pour vous, libérer de la vaine manière de vivre que vous aviez. Appréciez le prix. Savez-vous que Jésus-Christ a payé un prix? Et en quelque part, ce prix a été payé pour nous délivrer d'une vaine manière de vivre. C'était une vaine manière, c'est quoi? C'est une manière de vivre qui ne vaut pas grande chose. C'est une vapeur gaspillée. Et Jésus-Christ a payé cher pour que notre vie ne soit pas gaspillée. Donc, en quelque part, j'ai quand même un compte à rendre à Dieu, n'est-ce pas? Pour ma vie. Les jours que j'ai, à chaque jour quand je me réveille et je respire encore, « Wow, Seigneur, tu me donnes encore la vie aujourd'hui. Tu as payé cher pour que je puisse respirer aujourd'hui et marcher sur la terre aujourd'hui d'une manière qui est digne de ma vocation. » En quelque part, cette crainte de Dieu, ce sentiment de sainteté, on a besoin de l'inculquer plus que jamais auparavant. On a besoin de cultiver cela dans notre cœur. Nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus a payé cher. Et savez-vous quoi? À chaque fois que je décide de ma propre volonté de désobéir à Dieu, ou de céder à la chair, ou de faire les choses qui me font plaisir, malgré le fait que ça fait mal au cœur de Dieu, que je suis en train de, dans un sens, dénigrer le prix que Jésus a payé pour moi. Donc encore, je ne suis pas en train de parler des gens qui ont des luttes, ou qui ont des problèmes dans la chair qui sont en train de travailler. On n'est pas parfait, vous êtes d'accord? Mais en quelque part, on sait que la parole de Dieu nous donne le pouvoir de vaincre toutes ces choses dans notre vie. Amen? Donc, il y a une différence entre, comme j'aime beaucoup ce qu'un pasteur a dit, Dieu peut dealer avec votre faiblesse. OK? Il peut vous rendre fort. Il peut dealer avec votre faiblesse, mais il ne peut pas dealer avec votre rébellion. Il y a une grande différence entre être rebelle et juste choisir volontairement de continuer à pécher. Et ça, la Bible dit que si on fait cela, c'est comme si on va crucifier de nouveau le Fils de Dieu. À chaque fois que je décide de mon propre gré, « Oh, je sais que Dieu dit ça, mais je m'en fiche, je veux faire ce que je veux faire. » C'est comme si je mets encore les clous dans les mains de Jésus. En quelque part, réveillons-nous, Église. Jésus est vivant. Il a payé cher pour qu'on soit délivré de la vaine manière de vivre que nous avions, quoi, que nous avions hérité de nos pères. C'était dans la famille, n'est-ce pas? Bon, mais regarde bien, verset 19, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui croyant Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Donc, Jésus nous a rachetés avec le sang précieux qui coulait dans ses veines. Amen. Numéro 5, cinquième chose qu'on peut faire, aimez-vous ardemment les uns les autres. Ça, c'est une clé. Si on veut mener une vie qui compte pour Dieu, et toutes ces choses que je suis en train de partager sont tirées directement de la Bible, je ne les invente pas. Vous voyez cela? Et selon ce verset ici, en verset 22, « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Voulez-vous avoir une vie qui compte pour Dieu? Aimez-vous les uns les autres ardemment. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous allez toujours avoir des frissons à chaque fois que vous voyez tous les frères et les sœurs à l'église? « Oh, je vous aime! » Non, des fois, vous aurez plutôt comme le papier du sable, hein? Sablé, pardon. Des fois, ça va se frotter un peu. Des fois, il y a des personnalités qui nous dérangent un petit peu, juste une petite affaire. Même des fois, avec des personnes qu'on aime le plus, dans le mariage, dans la vie conjugale, des fois, il y a des moments où c'est pas toujours évident, vous êtes d'accord? Vous êtes des êtres humains, moi je suis un être humain, donc je suis convaincu que si vous me connaissez depuis plus qu'un an, vous avez eu au moins un moment. Peut-être pas si vous avez juste écouté une prédication, mais si vous avez passé du temps avec moi, sûrement vous avez eu l'occasion d'avoir un moment difficile avec Pasteur Ken. Sûrement. Et il y a quelques-uns de vous que... Non, non. Plaisant. Plaisant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous sommes les êtres humains, n'est-ce pas? Mais nous sommes aussi les enfants de Dieu. Et on peut quand même prendre une décision de s'aimer ardemment les uns les autres. C'est-à-dire que, tu sais, l'amour couvre une multitude de péchés, l'amour croit le meilleur, l'amour pardonne tout, excuse tout, l'amour est vraiment puissant. Vous êtes d'accord? Et on est capable, moi j'ai trouvé une chose, et ça c'est mon expérience, mes meilleurs amis, j'ai beaucoup d'amis, mais j'ai quelques très bons amis que j'ai eu depuis des années, plus de 20 ans. Mes meilleurs amis sont des personnes avec qui j'ai passé par des moments difficiles, où on a failli plus être en relation. On a eu des ruptures même, ou presque des ruptures dans nos relations avec eux, mais on a pu travailler à travers cela, on a pu se pardonner, on a pu se comprendre, et maintenant on a des meilleurs amis, et notre relation est plus forte que jamais. Et je pourrais vous nommer les personnes que je peux compter parmi mes meilleurs amis, sans exception, j'ai eu des moments difficiles, on a eu des moments où on n'était pas d'accord. Mais, aujourd'hui, laisse-moi vous dire, tu ne parles pas dans le dos de cette personne, pas dans mes oreilles. Ça, c'est mon ami et je suis là pour le protéger. Amen. Et c'est la même chose, je sais que c'est réciproque. Donc, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et si on veut avoir une vie qui compte pour Dieu encore, on veut bâtir avec de l'or, l'argent et les pierres précieuses. Encore, les pierres précieuses représentent les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. C'est précieux, ça vaut la peine de préserver cela. Ça vaut la peine de travailler et de battre pour cela, n'est-ce pas? Amen. Numéro 6. N'oubliez jamais que vous êtes né d'une semence incorruptible et permanente. Puisque vous avez été régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pourquoi est-ce que je veux souligner cela? Parce que, encore, notre vie est une vapeur. Qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur. mais votre vapeur ne sera pas gaspillé. Pourquoi? Sachez que vous êtes nés de nouveau. Vous avez la vie éternelle déjà en opération dans votre vie. Et voilà la chose, je voulais terminer avec cela. Savez-vous quoi? La vie éternelle ne commence pas quand vous êtes mort physiquement. La vie éternelle commence dès que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. C'est là que la vie éternelle commence. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Notre corps physique va continuer à vieillir et un jour, le corps physique va s'arrêter. Je ne suis pas du tout de l'avis qu'il faut que votre corps soit malade afin de s'arrêter. Je crois que vous pouvez mener une vie dans la santé, dans la prospérité, être quand même en forme. Je n'ai pas dit que quelqu'un qui a 95 ans va pouvoir faire les mêmes choses qu'il a fait quand il avait 25 ans. Le corps va faire des... On va voir, le corps va changer avec le temps, avec les années, mais cela ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir une souffrance horrible et d'avoir un corps qui est plein de maladies. Vous pouvez avoir un corps qui va vieillir quand même selon la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et un jour, quand votre vie est terminée sur la terre, votre esprit va tout simplement quitter pour rejoindre le Seigneur. Mais la vie éternelle a déjà commencé. Le moment que vous avez confessé Jésus comme votre Sauveur et comme votre Seigneur. En Jean chapitre 5, dit, bien-aimé, je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom de Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. N'est-ce pas? Pas afin que vous espériez, afin que vous sachiez. Donc, quand on pense à Michael Jackson, quand on pense à Farrah Fawcett, quand on pense à Elvis Presley, quand on pense à toutes ces personnes qui avaient toute la gloire pour un certain temps et qui aujourd'hui ne sont plus, leur vie était une vapeur. Et quand on pense à soi-même et on se pose la question, qu'est-ce que ma vie? Ma vie aussi est une vapeur, mais ma vapeur va compter pour Dieu. Ma vapeur va faire avancer l'œuvre de Dieu. Ma vapeur va propulser la vision que Dieu a planté dans mon cœur. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis son ouvrage. Je suis créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin que je les pratique. Et je refuse de gaspiller une minute de plus de ma vie. Je vais vivre selon ces six principes. Je vous invite vraiment à les méditer. Sondez votre cœur. Posez-vous la question, est-ce que je le fais, Seigneur? Est-ce que je vis pour ta gloire? On va se lever debout. Et on va prier aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Et j'aimerais tout simplement vous inviter aujourd'hui à sonder votre cœur. Prenons juste une minute, pensons à cela. Qu'est-ce que votre vie? À chaque dimanche matin, j'aime donner une invitation. J'invite les gens à donner leur cœur à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est pas du tout une question de combien d'argent vous avez dans votre compte, combien vous êtes populaire, combien vous êtes apprécié par les gens. Vraiment, la seule chose qui compte, c'est est-ce que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que vous avez reçu la semence permanente et incorruptible dans votre cœur? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Donc, posez-vous la question. Si vous, comme Michael Jackson, comme Farrah Fawcett, si aujourd'hui, le 29 juin, votre cœur arrête de battre, et, boum, comme ça, votre esprit quitte votre corps, où est-ce que vous allez passer l'éternité? Et quand vous allez vous présenter devant Jésus, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire? Vous avez un compte à rendre à lui, comme moi et comme tout le monde. Il va vous demander, qu'est-ce que tu as fait avec la vie que je t'ai donnée? Donc, posez-vous la question. Si vous dites, mais pasteur, pour dire la vérité, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais pas si mon esprit va quitter et aller au ciel ou aller à l'enfer, je ne sais vraiment pas. Peut-être vous dites, mais j'espère que je vais aller au ciel. J'étais une bonne personne, mais savez-vous quoi? La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui était aussi bon pour aller au ciel sur ses propres mérites. Dites, oh, mais je vais à l'église des fois, ou même régulièrement. S'asseoir dans une église ne fait pas de vous un chrétien, pas plus que dormir dans le garage, faites-vous une auto. Vous dites, mais je lis la Bible ou je prie. Vous savez, il y a des personnes dans toutes les religions qui vont lire des livres et qui vont faire des prières. Cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu non plus. La seule chose qui peut faire de vous un enfant de Dieu, c'est de confesser avec ta bouche que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur. Romains chapitre 10, verset 9 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et un Seigneur, c'est un maître, c'est-à-dire que c'est lui qui conduit, c'est lui qui est au volant, c'est lui qui est en charge. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. » Jésus a dit également que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais juste vous donner l'occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus? Ou, soit vous ne l'avez jamais fait, ou vous vous êtes éloigné du Seigneur et vous voulez vraiment revenir à lui aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui? N'ayez pas honte. Je vais demander, je vais compter à trois, taper ma main. Si vous êtes là, quand je t'attends, je lève la main dans l'air et dis oui, je veux donner ma vie à Jésus. Qui veut le faire aujourd'hui? Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Revenir à Jésus, donner sa vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu veux revenir à Jésus aujourd'hui? C'est bon, quelqu'un d'autre? Levez la main. Mes parents, j'ai dit, si tu me confesses de raison, viens ici à maman. Ça prend du courage, mais c'est bon. On va remercier le Seigneur pour lui aujourd'hui. Ton nom encore, c'est lui. On va remercier le Seigneur pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas honte de dire, oui, je veux servir Jésus aujourd'hui. Je veux marcher pour lui. Je veux vivre pour lui. Ma vie est une vapeur, mais je veux que ma vapeur soit utilisée pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Levez la main. Sinon, on va faire une prière avec lui. On va tous prier ensemble. Père Céleste, tu veux juste répéter avec moi. Au nom de Jésus, je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vais le suivre. Je vais l'obéir. Je vais faire sa volonté. Avec l'aide du Saint-Esprit, je vais vivre pour toi. Je vais mener une vie qui compte pour éternité. Ma vie est une vapeur, mais je refuse de gaspiller cette vapeur au nom de Jésus. Amen. Amen. On remercie le Seigneur encore pour lui. Donc, Sylvain, je sais pas si tu as déjà une Bible, mais sinon, Sylvain est là, il va te donner une Bible en cadeau gratuit qu'on veut t'offrir aujourd'hui. Et si tu as d'autres questions, il est là pour répondre à tes questions. Seigneur est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Amen. Alléluia. Seigneur est bon. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Allô, le Seigneur. Juste avant ça, est-ce que tu peux le faire dans... Très bref? Bon, excellent. Donc, Donald avait un passage dans son cœur. Il m'a partagé ça avant l'assemblée. Ça va de pair avec ce que je viens de dire. Donc.
Tout au long du message, ça confirmait que ce matin, le Seigneur... Pendant que je regardais la parole de Dieu, il me disait, Donald, pendant que je regardais, je cherchais, puis je faisais des détails, je cherchais. Il disait, Donald, je bâtirai mon église.
Amen.
Je continuais, je regardais encore techniquement parlant des choses. Parce que moi, je suis un homme de technique. Il dit, Donald, je bâtis mon église. Ne permets pas de fissures pour la vapeur de sortir.
Mm-hmm.
C'est le maillon qui devait se faire entendre ce matin, comme vous l'avez entendu.
Mm-hmm.
Amen. Quand nous voyons les dons de Dieu en manifestation, que ce soit par la prédication, ou une main, ou des yeux, ou des oreilles qui entendent pour Dieu, de tous ceux qu'on pourrait considérer des élites, une fissure pourrait apparaître si ça remplace Dieu. Si nous tombons dans l'admiration d'aucun être humain,
amen,
la fissure fait perdre la vapeur dans votre vie.
Mm-hmm.
Mes frères et mes sœurs, pour ne pas perdre la vapeur, il ne faut jamais regarder à l'homme ou à la femme qui pourrait être une élite, et Dieu merci qu'ils le sont. Parce que Dieu a dit, c'est moi qui bâtis l'Église, mais je me sers de mes membres. Mais que ces membres ne deviennent pas l'objet d'une fissure dans le corps de Christ. Et c'est ça que j'avais reçu ce matin. Et je crois que dans l'Église universelle, c'est l'une des plus grosses fissures. C'est beau de voir les charismes, c'est beau de voir les dons, c'est beau de voir les messages à l'effet oratoire ou en toute simplicité et avec tellement de puissance. Mes frères et mes sœurs, ne perdons pas de vue celui qui est magistral et le premier dans tout ça. C'est celui qui dit, mes enfants, ne perdez pas de vue, c'est moi qui suis en train de servir soit de vous, ou de lui, ou de elle. Ne perdez pas, n'enlevez pas vos yeux sur moi.
Amen.
Car là, la vapeur va cesser d'agir dans sa pleine puissance. Et plutôt de voir une église avancer, il va y avoir une rétrogression. Gardons nos yeux sur Christ. C'est lui qui est le rémunérateur de notre foi, de toute notre vie. C'est lui qui a commencé dans chacun de vos vies, de nos vies, une œuvre. Enlevons nos yeux de sur l'homme. Regardons à celui qui fait vraiment l'œuvre. Laissons la technique à lui. Soyons humbles. Ne nous laissons pas embourber dans la complexité d'un ecclésiastisme. C'est pas bon. On va se perdre. On va se perdre, mes frères. Ça va devenir un labyrinthe. Soyons humbles. Soyons comme des tout petits enfants. Et laissons le Maître nous guider. Jésus a dit, il n'y a qu'un seul directeur. N'a pris personne directeur. C'est le Christ qui est le directeur. Donnons-lui la liberté, donc, alors, de se servir de ces élites qui sont sanctifiées vraiment. Mais ne perdons pas de vue celui qui a sanctifié ces élites et qui s'en sert.
Amen. Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur. Bonne parole. C'est Jésus qui baptise son Église. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à utiliser votre vapeur aujourd'hui pour la gloire de Dieu? Amen. Donc, on va chanter, on va célébrer. N'oubliez pas, mercredi soir, 19h. Et la semaine prochaine, on va avoir une consécration d'un bébé. On va avoir, je pense, plusieurs invités qui vont venir aussi. Venez nombreux et amenez des personnes avec vous que vous ne connaissez pas, le Seigneur Jésus. Et soyons remplis de l'Esprit et de l'amour de Dieu aujourd'hui. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse.